Bon, on va commencer. D'abord, je vais vous demander d'imaginer une scène. Le président Macron et le gouvernement français au complet sont sur le site archéologique d'Avaricum, une ville assiégée détruite par les Romains à l'époque de cette guerre-là. Et on assiste à quoi ? Aux obsèques nationales des ossements gaulois trouvés sur le site. Le président de la République a décidé qu'il fallait les honorer. Ils ont combattu contre un envahisseur étranger, les Romains. Et donc, on enterre, on fait des funérailles nationales pour les ossements des Gaulois. L'assistance salue la mémoire de Vercingétorix. C'était une révolte qui s'était mal terminée. Eh bien, c'est exactement ce genre de cérémonie qui a eu lieu le 11 mai 1982, sur une colline dans le désert de Judée, avec Menachem Begin, le gouvernement israélien, le président de l'État, 200 personnalités. C'était les obsèques, les funérailles militaires, des ossements qui auraient appartenu à des combattants de Shimon Bar Kokhba, le chef de la révolte contre les Romains en l'an 132 de l'ère grégorienne. Une garde d'honneur de l'armée israélienne présente les armes, tire les salves, et vous avez accroché à un filin, un hélicoptère, le grand rabbin d'Israël, Shlomo Goren, qui vient déposer les boîtes retirées des tiroirs du département d'archéologie de l'université hébraïque pour déposer ces ossements dans la grotte où les archéologues les avaient découverts 20 ans plus tôt. Sur cette colline se retrouve tous les éléments de l'idéologie et de la théologie de l'Israël contemporain. Pour Menachem Begin, c'était le retour du peuple juif sur cette terre de Judée, où Israël est retourné grâce à la guerre de six jours en juin 67. En juin 67, cette guerre, pour Begin, a creusé une faille dans le temps historique. L'Israël contemporain, pour lui, poursuit le combat des révoltés de l'an 132, la révolte de Bar Kokhba. Les siècles passés ne sont qu'une parenthèse. Ça, c'est l'idéologie du sionisme nationaliste. La présence du rabbin Goren, du grand rabbin d'Israël, qui était l'aumônier de l'armée israélienne en 67, Goren, sa présence n'est pas fortuite. Pour lui, c'est le retour à Sion, la création de l'État, font partie de ce fondamentalisme messianique, sa vision linéaire, eschatologique de l'histoire. Tout est décision divine. Ce jour-là, Goren, grand rabbin d'Israël, réalise l'acte religieux d'accorder une sépulture juive à ses ossements, à ses combattants qui auraient dû l'avoir 2000 ans plus tôt. Subitement, arrive dans cette cérémonie une dizaine de membres d'un kibboutz voisin. Ils sont hilars, ils sont déguisés en romains et puis ils essayent de perturber le gouvernement Begin. Je suppose que ces membres du kibboutz auraient trouvé la chose beaucoup moins amusante car moins d'un mois plus tard, ils seront la plupart en uniforme pour faire la guerre que le gouvernement Begin a décidée au Liban contre l'OLP. Mais je suis venu pour vous parler du messianisme. Et là, on va vous imposer un peu d'histoire biblique. Dans la Judée occupée par les Romains en l'an 66 de l'ère moderne, après plusieurs incidents, Éléazar, fils d'un grand prêtre, un grand prêtre juif, a décidé de ne plus procéder aux sacrifices quotidiens pour l'empereur de Rome, sur l'esplanade du temple juif à Jérusalem. Et puis un sacrifice d'oiseau avait eu lieu devant une synagogue à Césarée un jour de Shabbat. C'était une horreur. À Jérusalem, le procurateur romain Gessius Florus, gouverneur romain, avait saisi des pièces d'or appartenant au trésor du temple. C'était le début d'une agitation qui va conduire à une véritable guerre contre le pouvoir de Rome. Elle va durer jusqu'à l'an 70. Le général romain, Vespasien, assiège Jérusalem où les Zélotes lui résistent. s'il fallait les qualifier aujourd'hui, ce sont des nationalistes radicaux. Parmi les zélotes, on trouve les sicaires, ça ce sont les ultras. Ils étaient appelés ainsi car ils maniaient la sica, le poignard utilisé par eux surtout pour assassiner les étrangers, de préférence romains, mais aussi assassiner leurs adversaires politiques, les modérés et juifs. Zélotes et sicaires ont une vision théologique. Par la violence, ils entendent hâter la fin du monde, la venue du Messie, l'Apocalypse, l'arrivée du royaume de Dieu. Les textes décrivent une situation épouvantable dans Jérusalem assiégée. Yohanan ben Zakkai, un sage de la Torah, un modéré, il aurait appartenu à la lignée du roi David, considère que cette révolte des zélotes et des sicaires va mener à la catastrophe, au massacre des juifs dans Jérusalem. Il fait croire à sa mort et, caché dans un cercueil par quelques-uns de ses disciples, il parvient à sortir de la ville. Là, il rencontre Vespasien et lui prédit qu'il sera empereur. Ce dernier lui accorde donc l'autorisation de créer dans une ville voisine, la ville de Yavné, un nouveau Sanhédrin, un centre d'études religieuses. La prédiction se réalise, Vespasien devient empereur, son fils, le général Titus, termine la conquête de Jérusalem, la population de Jérusalem est massacrée, le temple détruit, il n'en reste de visible que des murs externes, notamment le mur occidental, le mur des Lamentations. À partir de ce jour-là, il n'est plus possible de procéder au culte tel qu'il se déroulait dans le temple. Et Ben Zakkai définit une nouvelle forme de judaïsme en l'absence de ce sanctuaire. Le judaïsme avant l'an 70, c'était des sacrifices d'animaux sur le temple, toute une procédure pour les prêtres de se purifier à des dates précises. Le peuple devait faire des offrandes. Il y avait la caste de prêtres, les Cohen, les Lévis. Tout cela, on le connaît. Tout cela est décrit dans le détail par la Torah et le Talmud. Et Ben Zakkai invente en fait une nouvelle forme de judaïsme. La prière, l'étude du mot, va remplacer les sacrifices d'animaux. L'observance des commandements, sans le temple, sans le culte qu'il faut faire, les présents qu'il fallait amener au temple, tout ça est fini. On est dans un nouveau judaïsme, c'est le début du judaïsme rabbinique. Une nouvelle révolte juive éclate en 132. Elle est menée cette fois par un certain Shimon Bar Korba. C'est ainsi que l'on prononce son nom aujourd'hui. Les archéologues ont découvert des lettres de lui en fouillant des grottes près de la mer Morte. Là, on avait trouvé les ossements dont je vous ai parlé au début de ma conférence. Bar Korba lève une armée. Il annonce qu'il veut libérer le pays de l'occupant romain et reconstruire le temple. Dans un premier temps, il remporte quelques succès militaires, pas mal. Il anéantit une légion romaine. Selon la tradition juive, le rabbin Akiba, la plus grande sommité religieuse de l'époque, le considère comme le Messie. Akiba était aussi un des élèves du rabbin dont je vous ai parlé, également Yohanan ben Zakkai. Rome ne peut pas accepter un tel soulèvement et expédie pas moins d'une douzaine de légions pour écraser le révolte de Bar Korba. Avec ses dernières troupes, il finit par être assiégé dans la forteresse de Bétar. Les Romains la prennent d'assaut, tous ses occupants sont massacrés en 135. La plupart des localités de Judée, près de 1000 selon le Talmud, sont rasées. Jérusalem aussi est rasée, sur les ruines, une ville romaine, Aelia Capitolina, est construite. L'accès aux Juifs est interdit sous peine de mort. Les Romains rebaptisent la région et lui donnent le nom de Palestina. Bar Korba a échoué. Il a mené le peuple d'Israël à un cataclysme. Les Juifs se dispersent dans le reste du monde. Les sages du Talmud ont qualifié Bar Korba de faux messie. Ils ont changé son nom en Barkoziba, ce qui veut dire le fils du mensonge. Tirant les leçons de ces catastrophes, les sages du judaïsme ont développé une doctrine destinée à remplacer le messianisme actif. À deux reprises, le soulèvement juif a amené une catastrophe. D'abord la destruction du temple, et puis ensuite les massacres et la destruction pratiquement de toute la communauté juive qui existait à l'époque en Judée. Donc, le principe fondamental pour les sages du Talmud, c'est les Juifs doivent se retirer de l'histoire et attendre passivement la rédemption. Toutes les initiatives pour en favoriser la venue, tenter de la provoquer ou même de la prévoir sont interdites. Le messianisme doit être extirpé de la conscience juive. Au fil des siècles, pour cela, les talmudistes ont défini trois interdits politiques. Dans le Talmud de Babylone, le rabbin Yossi ben Hanina les énumère. 1. Israël ne montera pas en muraille, c'est-à-dire l'interdiction d'immigrer en masse en Palestine, en terre d'Israël. 2. Dieu, le Saint béni soit-il, a fait jurer à Israël de ne pas se rebeller contre les nations du monde. On ne recommence pas un soulèvement comme ce fut le cas contre les Romains. 3. Le Saint, béni soit-il, a fait jurer aux nations de ne pas opprimer Israël trop durement, ce que Ben Hanina analyse ainsi. Il y a deux serments, l'un pour Israël et l'autre pour les nations. Israël a juré de ne pas se rebeller, et les nations ont juré qu'il ne serait pas un fardeau pour Israël afin de ne pas faire venir la rédemption prématurément. C'est le judaïsme pendant les deux millénaires. Théodore Herzl, fin du 19e, fondateur du sionisme politique, avait également conscience du danger que représentait le messianisme pour son mouvement, pour le sionisme. Dans L'État des Juifs, qu'il avait publié en 1896, Herzl écrivait « Aurons-nous une théocratie ? Non. » Si la foi maintient notre unité, la science nous libère, c'est pourquoi nous ne permettrons pas aux velléités théocratiques de nos chefs religieux d'émerger. Nous saurons les cantonner dans leurs temples, de même que nous cantonnerons l'armée de métier dans les casernes, d'armée le clergé en droit aux honneurs que leur confèrent leurs nobles fonctions et leurs mérites. Ils n'ont pas à s'immiscer dans les affaires de l'État. Pour l'Israël contemporain, c'est plutôt raté. En 1902, Herzl va plus loin dans son ouvrage « Altneuland » où il imagine la société juive libérale après la réalisation de son projet. « Altneuland », cela veut dire « ancien nouveau pays ». C'est un roman utopique où il décrit non pas l'État mais une société juive. Et les personnages qu'il décrit, à un moment donné, assistent à un opéra intitulé « Sabtaï Tzvi ».« Sabtaï Tzvi », c'est un faux messie juif, un vrai. En 1648 à Izmir, ce monsieur, Sabtaï Tzvi, s'était proclamé messie à l'âge de 22 ans. Et en quelques années, il a suscité un véritable mouvement dans les communautés juives, aussi bien en Orient qu'en Occident, une chose d'immense. Des masses juives de l'époque le suivaient. Un sultan ottoman a décidé que c'était insupportable. Il l'a fait arrêter, jeté en prison, et Sabtaï Tzvi a fini par se convertir à l'islam. Et dans le livre de Herzl, Altneuland, Litvak, qui est le héros très libéral de Herzl, Litvak déclare « Ce n'est pas que le peuple croit en la parole de ses faux messies, ils expriment la croyance du peuple et devancent une aspiration ». Ils sont le produit d'une aspiration, c'est cela, l'aspiration fait le Messie. Autre personnage de Herzl dans ce livre, un certain rabbin Gaier, il est extrémiste et xénophobe. Ceci est un État juif où seuls les Juifs, dit-il, ont droit à la citoyenneté. Les autres ne peuvent être que des résidents tolérés sans droit politique. Selon Herzl, Herzl imagine que les libéraux finissent par l'emporter au nom des principes universels des Lumières, des droits de l'homme et des sources du judaïsme. Même loi régira tant l'étranger que l'indigène. C'est un principe aussi de la Torah. Et dans son roman, les Arabes disposent du droit de vote et certains d'entre eux occupent des postes très importants, y compris la vice-présidence. Au moment où Herzl lance son mouvement de sionisme politique, l'orthodoxie rabbinique était totalement opposée à ce projet dès sa création. En 1897, après le premier congrès sioniste qui s'est déroulé à Bâle, en Suisse, le grand rabbin de France de l'époque, Zadok Khan, posait la question « Pourquoi le nouvel État s'appellera-t-il juif ? Aucune de ses lois, ni civiles, ni politiques, ni religieuses, n'est juive. » C'était ainsi qu'il critiquait le projet de Herzl. Mais en 1905, arrive en Palestine un brillant talmudiste qui s'appelle Abraham Yitzhak HaKohen Cook. Il a étudié à la célèbre école talmudique, la Yeshiva de Volozhin, aujourd'hui en Biélorussie. Une école talmudique où on trouvait des partisans du mouvement des Chovevei Tzion, c'est-à-dire les amants de Sion, un mouvement fondé en 1981 par un médecin de Varsovie, un certain Léon Pinsker, qui, en raison des pogroms qui se déroulaient en Russie, voulait encourager déjà le retour de juifs en Palestine, en terre d'Israël. C'était un précurseur du sionisme politique de Herzl. Mais je reviens à Yitzhak HaKohen Cook. Il devient d'abord rabbin de Jaffa et des localités environnantes. 15 ans plus tard, les autorités mandataires britanniques le nomment grand rabbin de Jérusalem. Et selon des revues catholiques hollandaises qui arrivent à Paris et qui sont citées par l'organe du consistoire israélite, ce rabbin Cook aurait déclaré « Nous ne pouvons juger pour le moment à la réalisation de notre rêve, c'est-à-dire au rétablissement du royaume de Sion. Cependant, il est certain qu'Israël est devenu le maître du monde. Plusieurs empires autrefois très puissants tels que la Russie, l'Allemagne et l'Autriche sont aujourd'hui gouvernés ostensiblement par des juifs. » Et ce sont encore des juifs qui dirigent les mouvements populaires. Bientôt, ce sera le tour des autres nations. Le jour approche où le judaïsme verra flotter son étendard sur le monde entier, l'étendard du judaïsme. Et en France, l'hebdomadaire L'Univers israélite considère qu'il s'agit là d'un faux, je cite, un canard qui renaît de temps en temps des cendres de l'oubli. Il faut dire que cela ressemblait plutôt aux accusations des protocoles des sages de Sion contre lesquels luttaient les institutions israélites françaises. Mais de fait, le rabbin Cook a élaboré une nouvelle théologie en définissant le sionisme politique comme eschatologique, comme messianique. Le nouveau retour à Sion serait, pour lui, l'expression de la volonté divine et signifie que le monde évolue vers la fin des temps. Selon lui, sans en avoir conscience, les sionistes socialistes venus créer des kibboutzim, travailler à la terre en Palestine, ne participeraient pas à l'auto-émancipation du peuple juif, mais obéiraient à un commandement divin. Et Cook était persuadé, et il l'a écrit, qu'ils finiront par accepter la halakha, la loi religieuse, observer le Shabbat, manger uniquement des produits kasher. Cook devient grand rabbin de Palestine, il est nommé par les Britanniques, et il crée à Jérusalem une école talmudique, la Yeshiva Merkaz Arab, ce qui veut dire le centre du rabbin. Il y prodigue son enseignement. Après son décès en 1935, son fils, également un rabbin Cook, a poursuivi son œuvre et développé sa théorie en y intégrant son analyse des événements contemporains. 1947, après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, le combat sioniste pour l'indépendance d'Israël arrive à terme. Les institutions sionistes en Palestine doivent définir la nature de l'État et surtout la relation entre les institutions et leur lien avec la religion juive. Il y a des communautés ultra-orthodoxes, non sionistes, qui sont installées en Palestine. Elles sont représentées au sein du parti Agudat Israël. Ces ultra-orthodoxes sont venus, entre autres, pour chasser. Ils ont réussi à échapper à la Shoah. Et ils considèrent qu'ils sont en Israël comme s'ils étaient dans une ville d'Europe ou d'ailleurs. Et ils ne se lèvent pas, par exemple, quand on entonne l'hymne national israélien. Ils ne sont pas du tout sionistes. Il y a des discussions avec le patron de l'agence juive, un certain David Ben-Gourion, et le 19 juin, à l'issue de ces négociations, Ben-Gourion envoie aux représentants de ces ultra-orthodoxes une lettre dans laquelle il prend quatre engagements. 1. Le Shabbat, le samedi, sera le jour de repos légal dans l'État juif. Les chrétiens et les personnes appartenant à d'autres confessions pourront choisir leur jour de repos. 2. Dans toute cuisine publique destinée à des juifs, la nourriture devra être cachère. 3. Faire tout ce qui est possible pour satisfaire l'exigence profonde des croyants en vue d'éviter à tout prix le malheur que constituerait la scission du peuple d'Israël en deux groupes. Explication, cela signifie que l'état civil dans l'état d'Israël sera sous le contrôle des rabbins. Ce sont eux qui détermineront qui est juif. 4. David Ben-Gourion s'engage à garantir l'autonomie du système éducatif orthodoxe. Mais, ajoute-t-il, l'État déterminera le minimum qui devrait être obligatoirement enseigné, la langue hébraïque, l'histoire et les sciences. Une condition qui ne sera jamais vraiment appliquée. Les grandes écoles primaires, secondaires, les yeshivot, les kollels des ultra-orthodoxes n'enseignent en général ni l'anglais, ni les maths, ni l'histoire. Et dans certains endroits, vous apprenez que la Terre est plate. La question religieuse se retrouve dans les discussions sur le texte même de la Déclaration d'indépendance. On va proclamer l'État d'Israël et ce qu'on va dire à la fin avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. Question. Aaron Ziegling du Mapai, qui est un ancêtre du Parti travailliste, lui-même est fils de rabbin, et il refuse l'invocation de Dieu dans la phrase « Confiant en l'Éternel Tout-Puissant, nous signons cette déclaration, etc. » Le rabbin Yehuda Leib Fishman, du parti Mizrahi, l'ancêtre de ce qui deviendra le Parti National Religieux, et il était un proche du rabbin Cook fils, il n'est pas d'accord. Donc, on n'arrive pas à se mettre d'accord à la veille de la proclamation, le 14 mai, comment on va proclamer l'État ? Ben-Gourion, finalement, impose un compromis à la place du mot « l'Éternel », le Dieu l'Éternel, il y a les mots « Tsour Israël ».« Tsour Israël », en hébreu, ça a un double sens. Pour les séculiers, cela signifie simplement « rocher », la pierre. Pour les religieux, cela signifie « le Dieu d'Israël ». Pourquoi le rocher ? Eh bien, sur l'esplanade du mont du Temple, l'esplanade des mosquées, le dôme du rocher se trouve à l'endroit où existait le Saint des Saints, où le grand Cohen rentrait uniquement le jour de Kippour. Et c'est là que pour le judaïsme existait l'esprit divin, était présent. Donc pour les religieux, au nom de Tsour Israël, au nom du rocher, au nom de Dieu, et pour les éculiers, bon, tout ça c'est une pierre. Le 14 mai 48, Ben-Gourion proclame l'indépendance. Il faut quand même vous rappeler quelques extraits. L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration de tous les Juifs où ils sont dispersés. Il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël. Il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture. Ben-Gourion a lancé un appel aux habitants arabes, on est déjà en pleine guerre d'indépendance d'Israël, il lance un appel aux arabes palestiniens à préserver les voies de la paix et à jouer leur rôle dans le développement de l'État sur la base d'une citoyenneté égale et complète et d'une juste représentation dans tous les organismes et les institutions de l'État. Ce texte sert de fondement aux lois constitutionnelles qui sont votées par la suite, par le Parlement, par la Knesset. Israël n'a toujours pas de constitution. Au cours des années suivantes, après 1948, le sionisme religieux reste très minoritaire au sein de la société israélienne. Il est ostracisé par les grandes yeshivas, les grandes écoles orthodoxes, et les disciples du rabbin Cook sont des religieux modernes. Ils effectuent un service militaire, au contraire des ultra-orthodoxes non-sionistes qui en sont dispensés. En 1948, Ben-Gourion a autorisé 400 étudiants orthodoxes à ne pas revêtir l'uniforme. Ils étaient 800 en 1968, mais le nombre s'est pas mal développé. Ils ont été 41 000 en 2005. Ça en fait des divisions pour l'armée israélienne qui ne les a pas. C'est un problème majeur pour la société et l'économie israélienne. Les étudiants de la yeshiva du rabbin Cook, Merkaz Arav, ils servent dans le cadre d'écoles militaires et religieuses adaptées à l'armée. Ils étudient la Torah et le Talmud pendant 3 à 4 ans et effectuent un service militaire raccourci de 2 ans. La première de ces écoles talmudiques militaires a été créée en 1953 et la seconde en 1961. Il y en a aujourd'hui plus d'une quarantaine, dont une douzaine installées dans des colonies en Cisjordanie. Ces étudiants du rabbin Cook étaient en première ligne lors de la guerre de six jours qu'ils ont vécue comme un phénomène cosmique. Pour eux, c'était la preuve absolue de la justesse de leur croyance dans le sionisme de la rédemption. Ce mois de juin 67 est un mouvement historique fondamental, pas seulement pour Israël et le Proche-Orient, mais aussi pour le judaïsme. Et pour le comprendre, on va revenir un peu sur une série d'événements, sur le statut, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est musulman sur l'esplanade, qu'est-ce qui est juif, qu'est-ce qui peut l'être, et quelle est la politique du gouvernement israélien et comment on est arrivé à cette politique. 5 juin 67, destruction des armées de l'air arabe, offensive surprise d'Israël, les blindés israéliens sont dans le Sinaï. Hussein de Jordanie commet l'erreur d'ordonner à son artillerie d'ouvrir le feu sur Jérusalem-Ouest et Tel Aviv. Il répond par une fin de non-recevoir au message du premier ministre israélien qui lui propose d'en rester là, de ne pas participer au combat. Et l'armée israélienne se lance alors à la conquête de la Cisjordanie. Ce sera terminé en 48 heures. Le 6 juin à Jérusalem, une unité blindée ouvre la voie vers l'enclave israélienne qu'il y avait sur le mont Scopus. C'est une des collines qui surplombe la vieille ville. Moshe Dayan arrive sur cette colline et puis regarde les mosquées, la vieille ville. Et il dit au général Narkis, qui était le commandant de la région militaire centre, « Quel paysage divin en ce jour, ça valait la peine. » Et Narkis, le général, lui dit « On y va, on la prend. » Et Dayan lui dit « Pourquoi aurions-nous besoin d'un tel Vatican ?» Au sein du gouvernement israélien, plusieurs ministres considèrent que le casus belli jordanien était l'occasion de conquérir la vieille ville qui avait été conquise, occupée par la Légion jordanienne en 48. Lors de la guerre de 48, les Juifs en avaient été expulsés, les synagogues dynamitées par la Légion jordanienne. Cette fois, le cabinet israélien donne le feu vert à l'armée. Dayan hésite, le lendemain 7 juin, Tsahal encercle la vieille ville, attend, Dayan réfléchit encore et finalement donne l'ordre, allez-y. Quelques heures plus tard, le colonel commandant la brigade des parachutistes annonce par radio « Le mont du Temple est à nous ». C'est la première fois depuis l'an 70 que des soldats juifs foulent le sol du lieu saint du judaïsme détruit par Titus. Parmi ces para israéliens, il y a deux élèves de la yeshiva Merkaz Arav et ils ont l'impression d'écrire un nouveau chapitre de la Torah selon l'interprétation de la prophétie biblique par les rabbins Cook, père et fils. Israël Steiglitz, c'est lui, il change son nom en Israël Ariel et il dirigera, il créera l'Institut pour la reconstruction du temple juif. Hanan Porat, un autre para, n'est pas là, il sera des dirigeants du mouvement d'implantation de colonisation Cisjordanie. Et tous les deux, devant ma caméra, ont dit, c'était le moment, on était en train d'écrire un chapitre de la Torah. Mais il foule aussi le sol du troisième lieu saint de l'islam. Le site a été conquis par les Arabes en 637. Avant cela, l'Empire byzantin qu'il avait occupé en avait fait un dépotoir. Les musulmans ont tout nettoyé, ont construit un dôme pour abriter le rocher de la fondation. C'est le rocher où, selon le Coran, le prophète Mohammed aurait effectué son voyage nocturne au ciel. C'est là où, selon la tradition juive, Abraham aurait voulu sacrifier son fils Isaac. Mais selon l'islam, c'était Ibrahim et Ismaël. Et cela se serait passé à la Mecque, pas là. Mais on revient à ce 7 juin 1967. L'armée israélienne est là, occupe ce lieu, troisième lieu saint de l'islam. Le général rabbin aumônier Shlomo Goren, c'est son grand jour, son grand moment. Il a sonné la corne de bélier, le chauffard. Il a fait venir des rouleaux de la Torah, installé des chaises et des bancs. Il est sur le point, ça y est, on commence le service sur le mont du Temple. Dayan arrive lui aussi et il ordonne à Goren, tu t'en vas, tu enlèves la Torah, tu enlèves tout. Il fait retirer le drapeau israélien qui avait été accroché sur la mosquée. Et quelques heures plus tard, Dayan déclare à la radio israélienne, nous ne sommes pas venus pour conquérir les lieux saints des autres ou pour y restreindre leurs droits religieux, mais pour assurer l'intégrité de la ville et y vivre avec d'autres dans la fraternité. Je peux vous dire que la droite israélienne, encore aujourd'hui, le critique. Quelques jours plus tard, une dizaine de jours, le 17, Dayan, dans la mosquée Al-Aqsa, il a enlevé ses chaussures, il rencontre le mufti et les imams, et il leur promet que le Waqf, l'administration des biens musulmans, et elle seule, continuera de gérer ce lieu saint, libre de toute présence militaire israélienne, l'armée et la police se tenant à l'extérieur des murs. Les juifs, dit-il, seront autorisés à visiter, mais pas à y prier. Il explique, ensuite, déclaration à la radio, étant donné que pour les musulmans, le mont du Temple est une mosquée où ils prient, et que pour les juifs, il ne s'agit que d'un site historique rappelant le passé, le droit des musulmans à le contrôler doit être reconnu. Il avait le soutien du grand rabbin Ashkenaz de l'époque, Isser Yehuda Unterman, qui a déclaré également « Le mont du Temple n'est pas encore libéré puisque des mosquées s'y trouvent. Lorsque le Messie viendra et enlèvera les mosquées, alors le Temple sera reconstruit. Quand ? Lorsque les nations ne se feront pas la guerre. La construction du Temple dépend de la paix mondiale. » C'est des explications des talmudistes. C'est la version classique des rabbins orthodoxes pour l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, le grand rabbinat d'Israël n'a pas changé de position. Des panneaux ont été installés à l'entrée de l'esplanade des mosquées, interdisant l'accès à toute personne se réclamant du judaïsme afin de ne pas risquer de commettre le sacrilège de fouler le sol du Saint des Saints. C'est théoriquement, les Juifs aujourd'hui ne savent pas où se trouvait le Saint des Saints, où seul le grand Cohen, le grand prêtre, avait le droit de rentrer une fois par an le jour du jeûne de Kippour. Il en lui attachait une chaîne, il rentrait, l'Esprit divin se trouvait dans le Saint des Saints, qui était apparemment à l'endroit où se trouve le rocher, c'est-à-dire où se trouve le dôme aujourd'hui, mais nulle part. Par la suite, je vais vous l'expliquer, des rabbins, des spécialistes, des religieux ont essayé de faire des calculs et puis retrouver l'endroit où se trouvait le Saint des Saints et donc pouvoir visiter là où il n'y est pas. Mais on est toujours en 67. Et Israël occupe des lieux saints. Et il faut déterminer exactement quelle est la position de l'État d'Israël, du grand rabbinat et du ministère des Affaires religieuses. Une loi de protection des lieux saints est votée par le Parlement. Le ministre des cultes, Zerach Verhaftik, présente un texte dans lequel, entre autres, il est écrit « 10 degrés de sainteté ont été accordés à la terre d'Israël. Jérusalem en a reçu 8, avec en son centre le mur occidental, le mur des Lamentations. Selon nos sages, ce mur, la présence divine ne l'a jamais quitté. » Le mur est donc présenté comme un ersatz au mont du Temple. Le mur est en bas, tout ce qui est important du temple se trouve sur l'esplanade des mosquées. Mais en fait, jamais le mur des Lamentations n'a été considéré comme un lieu saint dans la tradition juive. Jamais. Mais maintenant, on a les autorités rabbiniques d'Israël qui l'insistent, qui décident. C'est là le lieu saint. Là-haut, on ne peut pas y aller. Il s'agit tout simplement d'éviter que des nationalistes religieux juifs réclament le droit de prier dans le troisième lieu saint de l'islam, comme vous allez le voir. En mai 68, un an après, un avocat qui est aussi talmudiste écrit au ministre des cultes pour lui demander d'autoriser la prière juive sur une partie du mont du Temple. Réunion de la commission ministérielle des lieux saints, Zerah Varavtik, le ministre des cultes, rappelle que légalement, personne ne peut empêcher la prière juive sur l'esplanade des mosquées. Le ministre de l'Intérieur, Haïm Moshe Shapira, confirme et ajoute « Tout cela dépend de la police ». Alors, discussion, il faut revoir le procès-verbal. « Je propose de ne pas soumettre le problème au gouvernement », dit Shapira. « Si nous décidons de ne pas autoriser la prière juive là-bas, ça fera très mauvaise impression. Après tout, c'est ce qui reste du temple juif. Et maintenant, tout à coup, on interdirait la prière là-bas officiellement, c'est impossible. Nous n'avons jamais dit que le mont du Temple appartient tout entier aux Arabes. Nous n'avons jamais déclaré que les Juifs n'ont pas le droit de s'y rendre. Nous n'avons jamais déclaré que les Juifs n'avaient pas le droit d'y installer une synagogue. C'est quand même le gouvernement de l'État d'Israël, les Juifs, donc voilà. Et Shapira de poursuivre, ce qui est important pour nous, c'est de savoir si nous voulons transformer cette controverse que nous avons avec les Arabes en un conflit religieux très dur. Nous décidons donc que les policiers dirigeront les fidèles juifs vers le mur occidental. Et la suite de la décision, seule la police israélienne peut décider d'autoriser ou non la prière juive sur l'esplanade des mosquées. Pourquoi ? Afin de prévenir toute atteinte à la paix publique. Si cela risque de créer des manifestations, alors pas de prière. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Seule la police israélienne, et elle seule, pour des raisons d'ordre public, interdit la prière juive sur l'esplanade des mosquées. Il n'y a pas de décision gouvernementale, en principe personne n'observe, n'accepte. C'est uniquement le commandant local de la police qui décide. Mais ce n'est pas tout. Toujours 67, Israël a retrouvé les lieux de l'histoire biblique, la Cisjordanie est conquise, Naplouse, le Sichem selon la Torah, Bethléem et Hébron avec le caveau des patriarches, qui est aussi pour les musulmans, la mosquée Ibrahimi. C'est la Judée-Samarie qui appartient au peuple d'Israël selon le rabbin Cook, qui en interdit tout retrait. En juillet 67, au cours d'une cérémonie marquant la réunification de Jérusalem, il propose le serment, la prière juive de toujours, « Si je t'oublie jamais au Jérusalem, que ma droite se dessèche, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens toujours de toi, si je ne place Jérusalem au sommet de toutes mes joies. » Et il ajoute que la main qui signera des accords de concession soit coupée. En 1995, j'ai découvert des autocollants avec cette phrase du rabbin Cook sur les maisons des colons de la colonie juive de Hébron. Et quelques mois plus tard, Yitzhak Rabin était assassiné. On est toujours en 67, le 26 septembre, une cinquantaine de personnalités parmi lesquelles Shai Agnon, le prix Nobel de littérature, le général Avraham Yoffe, un des conquérants de la guerre de six jours, les poètes Nathan Alterman, Uri Tzvi Greenberg, Moshe Shamir, et même des responsables de la droite du mouvement Kibbutz fondent un mouvement annexionniste intitulé « Pour la terre d'Israël entière », qu'on traduit mal « Pour le grand Israël ». Le texte dit ceci, « La victoire de Tzahal, de l'armée, a placé le peuple et l'État dans une nouvelle époque à la croisée de son destin. La grande terre d'Israël est à présent entre les mains du peuple juif. De même que nous n'avons pas le droit de renoncer à l'État d'Israël, nous avons le devoir de réaliser ce que nous en avons reçu, Eretz Israël. Nous devons nous engager fidèlement à veiller à l'intégrité de la patrie face au passé de la nation et à son avenir. Aucun gouvernement en Israël n'a le droit de renoncer à cette intégrité. C'est la droite nationaliste. Ce mouvement apporte son soutien idéologique au Herout, le parti dirigé par Menachem Begin. Il fait adopter les grands principes de cette déclaration. C'est intitulé « Déclaration des droits du peuple juif sur sa patrie, la liberté, la sécurité et la paix ». Je cite Begin, « Le peuple juif a un droit sur la terre d'Israël dans sa totalité historique. Ce droit est éternel et ne saurait être remis en question. Une colonisation juive de grande ampleur en Judée-Samarie, à Gaza, sur le plateau du Golan et dans le Sinaï, est l'urgence de l'heure si nous voulons assurer la sécurité de la nation. » Il insiste également, un habitant arabe d'Israël qui voudrait obtenir la nationalité de l'État des Juifs devra lui prêter serment de fidélité. À ce moment-là, le rabbin Cook, fils, publie ce qui est considéré comme un jugement religieux. Il s'appuie sur un texte du Deutéronome. « Ne craignez qui que ce soit, car la justice est à Dieu. » Et Cook va plus loin. Il n'y a pas d'exception à l'interdiction par la Torah de remettre définitivement des terres à des goy, à des non-juifs. Toute personne en Israël, tous les grands de la Torah, tous les militaires ont l'obligation d'empêcher cela avec courage et audace. Et Cook ajoute, toute décision contraire étant réputée par avance, nulle et non avenue pour l'éternité. On trouve des sionistes religieux dans ce fondamentalisme, notamment à l'université religieuse de Bar-Ilan. C'est une université moderne, mais dirigée par des religieux. Le recteur de Bar-Ilan, c'est près de Tel Aviv, explique ainsi tout ce phénomène de son angle. Le juif est poussé à s'unir avec sa terre par une force aussi ancienne que l'histoire. C'est la terre sainte où le sanctuaire doit être construit. C'est là et seulement là qu'Israël assure sa mission de royaume de prêtres et de nation sainte. Quant aux Palestiniens qui sont là, voici ce que ce grand professeur d'université explique. Il existait une réelle prise de conscience de la part des Arabes de Palestine que la terre appartenait aux Juifs et qu'un jour ils viendraient la réclamer. Et lorsque le sionisme a vu le jour, afin de répondre aux besoins créatifs du peuple juif, la nation palestinienne a été créée afin de barrer la voie par tous les moyens à la renaissance d'Israël. Donc il y avait donc là, c'est la théorie du complot, il y avait un complot palestinien pour empêcher le retour d'Israël. Aussi bien pour la droite nationaliste que pour la droite nationaliste qui défend les droits historiques du peuple juif sur la terre d'Israël, aussi bien pour les fondamentalistes messianiques, les Palestiniens ne sont pas une nation. C'est une population d'intrus sur la terre donnée par Dieu aux Juifs. Il n'est pas question d'envisager la moindre concession territoriale. Cook, dès 68, envoie ses disciples coloniser ce qu'il appelle la Judée-Samarie. Cela débute le 11 avril 68, la veille de la Pâque juive. Un groupe de militants sionistes religieux s'installe dans un hôtel de Hébron pour y passer la fête. Ils ne quitteront plus la ville où le gouvernement israélien finira par construire la colonie de Kiryat Arba. En juin 1974, avec la bénédiction du rabbin Cook, des dizaines de ses étudiants forment une organisation dont le but est le développement de l'implantation juive en Cisjordanie. Ils lui donnent le nom de Gush Emunim, le bloc de la foi. Jusque-là, les divers gouvernements travaillistes ont autorisé la colonie de Hébron et de ci-de-là des installations d'implantation plutôt militaire avec des jeunes qui par la suite risquaient effectivement de se transformer en colonie en bonne et due forme. Cette fois, Gush Emunim se lance dans un bras de fer avec le chef du gouvernement, Yitzhak Rabin, et il s'installe dans le centre de la Cisjordanie, dans une localité qui s'appelle Sébastia. Rabin est extrêmement opposé à la colonisation. Il ordonne de les évacuer, ça se fait pas. Finalement, en novembre 1975, sous la pression du ministre de la Défense de l'époque, un certain Shimon Peres, ce mouvement Gush Emunim a l'autorisation de créer une colonie en Cisjordanie, au cœur de la Cisjordanie, du nom de Elon Moré. Ils s'installeront d'abord dans une base militaire près de Naplouse. Et Rabin, 4 ans plus tard, et j'ai déjà J'ai déjà donné cette citation dans ma dernière conférence. Rabin écrira à propos de Gush Emunim. Pour moi, c'était un phénomène des plus graves, un cancer au sein de la démocratie israélienne, opposé au fondement démocratique de l'État. Il était nécessaire de combattre ce mouvement par les idées, afin de dévoiler la nature réelle de ses positions et de ses voies d'action. Mai 77, Rabin perd les élections, le Likoud arrive au pouvoir pour la première fois. Mars 79, Sadat et Begin signent le traité de paix entre leurs deux pays. L'OLP d'Arafat ne rejoint pas l'initiative de paix de Sadat, rejette les accords de Camp David qui prévoyaient l'autonomie pour les Palestiniens. Et ce n'est pas la seule faute commise par le mouvement palestinien qui a raté, là, à mon avis, une occasion d'entamer un processus qui aurait pu mener très loin. Mais le plus grand pays arabe, l'Égypte, n'est plus l'ennemi d'Israël. Begin et son ministre Sharon ont le champ libre pour développer la colonisation en Cisjordanie et à Gaza. Le nombre de colons passe de 20 000 en 1977 à 70 000 dans une centaine de colonies 10 ans plus tard. Ils sont aujourd'hui 400 000, sans compter les 200 000 habitants des nouveaux quartiers de Jérusalem-Est et les implantations juives dans les quartiers musulmans de la vieille ville. Et le temple, qu'est-ce qu'on va faire pour que le Messie arrive? Eh bien, en avril 84, le Shin Bet démantèle un réseau terroriste juif. Il y a 27 arrestations. La crème de Gush Emunim est sous les verrous. Ils ont commis quelques attentats sanglants, anti-palestiniens, et au cours des interrogatoires, les enquêteurs découvrent qu'ils avaient un autre projet, détruire les saintes mosquées, notamment le Dôme du Rocher. Pour cela, le chef du réseau, Yehuda Etzion, avait préparé une tonne d'explosifs avec l'intention ensuite de reconstruire le temple. Etzion est un disciple de Shabtai Ben Dov. Je vous ai parlé tout à l'heure de Shabtai Ben Dov. C'est lui qui avait demandé l'autorisation d'aller prier sur la esplanade des mosquées en 68. C'est un phénomène, un personnage fascinant. C'est un talmudiste autodidacte. Il est né à Vilnius en 1924. Adolescent en Palestine au début des années 40, il a participé à l'organisation anti-britannique fondée par Avraham Stern, le groupe Stern. Et le groupe Stern avait une charte qui déjà avait tous les éléments du messianisme actif. Il comprenait 18 principes, ça s'appelle la charte de la Renaissance. Je vous en donne quelques-uns. Les objectifs: rédemption de la terre, renaissance de la nation, souveraineté, rétablissement de la souveraineté juive sur la terre après sa rédemption, régime de justice, établissement d'un ordre social dans l'esprit de la morale juive et la justice des prophètes. Un ordre social où il n'y aura ni affamé ni chômeur. Bâtir le désert, reconstruire les ruines, bâtir le désert pour une immigration de masse, résoudre le problème des populations étrangères, les Arabes habitant la terre d'Israël, par un échange de populations. Et le 18e principe prévoit de reconstruire le troisième temple comme symbole d'une nouvelle ère de rédemption totale. Ben Dov considère l'État d'Israël et son régime démocratique occidental comme une hérésie contre laquelle il faut lutter. Dans ce messianisme actif, à ce stade de son histoire, l'homme juif peut et doit prendre l'initiative, car pour Ben Dov et ses disciples, ils répondent à l'appel de la divinité. C'est en opposition à la théologie des rabbins Cook, pour qui l'avancée vers la rédemption ne s'opérera que par une transformation progressive et volontaire de la société juive en un système social régi par la halakha, la loi juive. Mais plusieurs groupes et organisations politiques fondamentalistes se développeront à partir de la vision de Ben Dov, dont les idées antidémocratiques filtrent au sein de Gush Emunim. À l'extrême, Meir Kahana, un rabbin américain, a développé une théologie messianique indépendante de celle enseignée par les rabbins Cook et par Ben Dov. Selon lui, l'histoire juive, depuis la destruction du Second Temple, est faite d'une série d'holocaustes. Le dernier en date, la Shoah, a poussé Dieu à se venger des non-juifs en leur imposant la création d'Israël. Kahana prêche une vision catastrophique de l'avenir des Juifs américains aux États-Unis, où il a mis sur pied la Ligue de défense juive, qui est, comme vous le savez, une organisation raciste. En septembre 1993, les accords d'Oslo, signés par Rabin et Arafat, la poignée de main. Janvier 1994, le 24 février 1994, un militant kahaniste, un certain Baruch Goldstein, médecin à Kiryat Arba, la colonie de Hébron, décide de passer à l'action. Il massacre 24 musulmans en prière dans le caveau des patriarches. Il y avait 130 morts. Goldstein aurait eu une sorte de crise de désespérance messianique. Seul un acte de sacrifice suprême au nom de Kiddush Hashem, ce qui signifie la sanctification du nom de Dieu, pourrait, croyait Goldstein, rétablir la marche vers la venue du Messie. Dov Lior, le rabbin de Kiryat Arba, prononce un discours à ses obsèques dans lequel il accuse les dirigeants israéliens d'avoir remis l'héritage de nos ancêtres à des étrangers. Et il ajoute, puisque Baruch Goldstein a agi au nom de Dieu, il doit être considéré comme injuste. Dov Lior, c'est lui. Voilà, on le reverra encore. J'en ai parlé dans ma dernière conférence. Pour les services israéliens, le Hamas va utiliser le massacre commis par Goldstein comme prétexte pour lancer des grandes attaques suicides contre des civils en territoire israélien. Ce sont les terribles, une période absolument terrible avec des dizaines de morts et l'insécurité qui est arrivée dans les rues israéliennes. 95, un livre est distribué dans la colonie de Hébron. Son titre, Baruch l'homme, Baruch Goldstein. Baruch Goldstein est appelé le saint, que Dieu venge son sang. Cet ouvrage de 540 pages, dont le premier tirage de 6000 exemplaires est très vite épuisé, a été édité par 4 dirigeants kahanistes. On y trouve quelques perles, et cela ressemble aux publications de Daesh. Le rabbin David Cohen va dans sa conclusion, il cite Maïmonide, « En temps de guerre, un individu juif a le droit de tuer sans distinction un non-juif appartenant à une population hostile, et cela même si seuls ses biens constituent une menace. Parmi les rabbins auteurs de ces articles, un seul fera l'objet de poursuites. Le rabbin Ido Alba de Kiryat Arba avait écrit que les interdits « tu ne tueras point et tu ne verseras point le sang humain » ne s'appliquait pas à un juif qui tue un non-juif. Il fera 18 mois de prison, c'est pas beaucoup, pour incitation au racisme. C'est le très rare cas où un rabbin a été traduit en justice et condamné pour des écrits racistes. En 2011, Dov Lior, à nouveau lui, sera brièvement convoqué dans un commissariat de Jérusalem avant d'être remis en liberté. Il était remis en liberté très vite parce que ses disciples... Des centaines de disciples ont bloqué l'entrée de Jérusalem. On ne pouvait plus rentrer et sortir de Jérusalem, donc les flics ont relâché le rabbin Dov Lior très vite. Il avait publié une chaude recommandation dans un livre intitulé « La Torah du roi ». C'est un ouvrage de 230 pages, publié par des rabbins de la colonie d'Itzar, près de Naplouse. Selon l'analyse qu'ils font de la loi juive, l'interdiction « tu ne tueras point » ne s'applique qu'à des juifs tuant des juifs. Porter atteinte à des enfants en bas âge peut être permis s'il est clair qu'ils grandiront pour nous attaquer. Shapira s'expliquera ainsi, par exemple, si en temps de guerre il est nécessaire de tuer des enfants non juifs afin de vaincre, et pour affaiblir l'esprit de l'ennemi et l'empêcher d'envoyer ses soldats à la guerre, alors c'est permis. Ce genre de littérature est rejetée et parfois condamnée par les rabbins modérés du mouvement sioniste religieux, mais aucune poursuite n'a été engagée contre les auteurs de ces écrits. Il en a été de même pour la cinquantaine de rabbins qui, en décembre 2010, ont publié une lettre interdisant à des juifs de louer des logements à des arabes. La plupart des signataires étaient en fonction et salariés par les municipalités de plusieurs grandes villes israéliennes. On retrouve le nom de Dov Lior parmi les signataires d'une lettre envoyée à des dizaines de rabbins israéliens C'était en 95. On était en plein processus d'Oslo. C'est de fait une condamnation à mort de Rabin et de Peres. Ce texte rappelait les attentats terroristes des derniers mois et posait la question: faut-il considérer ce mauvais gouvernement et celui qui le dirige complices des meurtres commis par les terroristes? Ne devraient-ils pas être jugés selon la halakha? Et s'il était prouvé qu'ils étaient complices de meurtre, quelle doit être la sentence? Le gouvernement et le Premier ministre ne devraient-ils pas subir la loi de Din Moser, puisqu'ils donnent la terre d'Israël, la propriété du peuple d'Israël aux gentils? Selon l'antique loi religieuse, un Moser est un juif qui trahit sa communauté, met en danger la vie d'autres juifs ou vend une propriété juive. Sa punition doit être la mort. Yigal Amir, jeune fondamentaliste messianique, milite dans cette mouvance. Il a participé aux manifestations des colons contre les accords d'Oslo. Il a assisté personnellement aux obsèques de Goldstein, dont il admirait le geste, le massacre de musulmans. Le 4 novembre 1995, après la grande manifestation pour la paix, place des rois d'Israël à Tel Aviv, Amir a abattu le Premier ministre Yitzhak Rabin de 2 balles dans le dos. On ne sait pas encore aujourd'hui quelle autorité rabbinique lui a donné l'autorisation de commettre ce crime. Aux enquêteurs, il affirmera toujours avoir agi seul, n'avoir parlé à personne de son projet. Aucun rabbin n'a été inquiété. Je vous l'avais dit la dernière fois, la commission d'enquête nommée par Shimon Peres n'a pas été autorisée à examiner le rôle des rabbins. Gush Emunim a surmonté la crise et en 2018, ses acquis politiques aujourd'hui sur le terrain sont impressionnants. Au sein du quatrième gouvernement Netanyahou, le plus à droite de l'histoire d'Israël, la Maison juive, le parti de la colonisation des fondamentalistes messianiques, est dirigé par Naftali Bennett, qui, au ministère de l'Éducation, veille à l'enseignement de l'histoire d'Israël selon sa vision. Avec Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, elle aussi de ce parti, il se lance dans la réalisation du vieux rêve de Gush Emunim, réduire le pouvoir de la Cour suprême, qui joue le rôle de haute cour de justice et défend notamment le droit à la propriété des Palestiniens. Les rabbins du mouvement fondamentaliste messianique considèrent qu'ils ont gagné la partie en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Persuadés que la création d'un État palestinien est désormais impossible aujourd'hui, ils préparent l'étape suivante, la construction du nouveau sanctuaire juif sur le mont du Temple, sur l'esplanade des mosquées. Dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, l'Institut du Temple a terminé la reproduction de tous les instruments du culte tels qu'ils sont décrits dans la Torah et le Talmud. Les couteaux pour sacrifier les animaux, les bovins, les ovins et les oiseaux, les uniformes des Cohen et de Lévi, qu'il faut en grande quantité parce que, à force de faire beaucoup de sacrifices, d'égorger pas mal d'animaux, les prêtres ils vont se salir et il faudra changer beaucoup de vêtements. Donc, en plus, ces uniformes sont faits sans qu'ils touchent le métal. C'est tout un truc décrit par la Torah, c'est assez compliqué à faire. Si vous passez par Jérusalem, allez visiter l'Institut du Temple. Vous avez tout cela là-bas, vous l'avez aussi dans mon film que j'ai fait, qui s'appelle « Au nom du Temple ». Il manque une chose fondamentale, la cendre de la vache rousse. Il ne faut pas rigoler, c'est très sérieux et c'est même très grave. Très brièvement, l'histoire se passe dans le Sinaï, bien après la sortie d'Égypte. Là, on revient dans la haute antiquité. Le peuple d'Israël vient de recevoir les tables de la loi, deuxième version. La première version a été détruite au moment de l'épisode du veau d'or. Et la question se pose, donc, pour cette tribu avec Moïse. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a les tables de la loi, on a tout. Qu'est-ce qu'on fait de ces grandes plaques de pierre? Réponse qui vient de Dieu, il faut tout purifier. Comment? Bien, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, au chapitre Nombre 19, paragraphe 2 à 8, il est précisé. Ceci est un statut de la loi, là je vous lis de la Torah, hein. Ceci est un statut de la loi qu'a prescrit l'Éternel, à savoir, avertis les enfants d'Israël de te choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut et qui n'ait pas encore porté le joug. La bête doit être sacrifiée selon un rituel bien précis, avec tel bois, tel bois, tel bois. Les cendres doivent être placées dans un récipient contenant de l'eau lustrale, mais recueillies par un garçon élevé dès son très jeune âge pour cette cérémonie, pour aller chercher de l'eau. Et sans ce mélange cendre et eau lustrale, ben ça ne marche pas. Il n'y a pas de purification. Et quid de ce garçon ? Alors, pour mon film, mon livre, je suis allé voir Yehuda Etzion, qui voulait faire sauter les mosquées, et lui, il travaille. Donc, ils sont en train d'essayer de sélectionner une vache, une génisse rousse, qui n'est pas le moindre poil blanc ou noir. Il paraît qu'ils l'ont trouvé. Dans les années 90, il y a eu beaucoup d'agitation, on a trouvé la vache rousse. Tout le monde est allé voir, je crois qu'elle s'appelait Mélanie, dans une étable d'une école agricole religieuse en Galilée. Et puis, il lui est poussé quelques poils noirs, ça n'a pas marché. Et j'ai demandé à Etzion, et les garçons, parce qu'il ne faut pas seulement la vache, il faut aussi le gamin qui, tiré par des bœufs, décrit d'ailleurs dans ce chapitre de la Bible, il faut que le garçon soit éduqué pour ça. J'ai demandé à Yehuda Etzion, ça je n'ai pas la place pour mettre dans le film, je m'excuse Paul, producteur. Etzion m'a dit, j'ai des familles de Cohen qui me préparent leurs fils. Donc ils y sont. La cendre de la vache rousse signifiera que le mouvement messianique franchira une étape supplémentaire vers la destruction des mosquées. Dans les années 90, lorsqu'on pensait que la fameuse vache Mélanie serait la vache rousse, des éditoriaux ont écrit que c'était plus dangereux que le nucléaire iranien à l'époque. Cela voudra dire qu'à ce moment-là, vous aurez le mouvement messianique qui sera en pleine crise. Et ils seront rejoints par d'autres. Par exemple, des responsables rabbiniques de chasse, le mouvement séfarade, le mouvement orthodoxe séfarade, on dit quand il y aura la vache rousse, j'y croirai et je viendrai avec vous. Si ça peut se faire. Je voudrais citer un livre, l'ouvrage Strong Religion, de trois grands professeurs, Almond, Appleby et Sivan, qui tous ont examiné l'ascension du fondamentalisme religieux dans le monde. Ils ont relevé d'emblée la tendance à minimiser, à simplifier le rôle de la religion en tant que force autonome en politique. Souvent, la religion est considérée comme un épiphénomène face aux réalités économiques et politiques. Dans les démocraties occidentales, politiciens, journalistes, universitaires considèrent que la religion est uniquement une affaire individuelle réservée au domaine du privé. Considère que c'est une véritable myopie envers le rôle du fondamentalisme et que cela brouille la vision du rôle joué par le fondamentalisme dans la politique, notamment au Proche-Orient, avec le messianisme. À Jérusalem, un des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant, le professeur Zev Sternel, a fait son mea culpa dans un de mes films et un de mes livres. Il déclare « À gauche, on n'avait pas compris que tout ça allait logiquement s'enchaîner ». Baruch Goldstein et Yigal Amir, tous deux, représentaient un courant idéologique et politique considérable, très puissant, un véritable torrent que la gauche refusait de voir par poltronnerie. C'était commande de se voiler la face. Il était plus facile de dire qu'on avait attrapé la grippe que se dire qu'on souffrait du cancer, alors que c'était bien un cancer dont nous étions affectés. Et ce fut là la grande débâcle du leadership israélien de gauche. Il faudrait peut-être aussi parler de la myopie des dirigeants européens envers l'autre fondamentalisme, le fondamentalisme messianique musulman, parce que Daesh était aussi un mouvement messianique, et les frères musulmans, dans leur vision, ont ça aussi, et ça c'est une autre histoire. Voilà, si vous avez des questions...
Quelle est la nature de la relation et comment cette relation peut-elle évoluer entre une droite nationaliste, certes dure, mais peut-être relativement éloignée de ce qui vient d'être décrit et ce mouvement qui vient d'être décrit. Comment tout ça peut évoluer à court terme ou à plus long terme?
Le Likoud de Menachem Begin longtemps était annexionniste, mais profondément démocrate. Begin disait, il y a des juges en Israël. Et aussi bien Begin que son successeur Shamir avaient conservé dans leur entourage des conseillers, des personnalités, des techniciens qui étaient proches du parti travailliste. Donc une vision de droite, annexionniste, mais démocratique. Le Likoud n'est plus là aujourd'hui. Les personnalités comme Meridor et d'autres, qui étaient du Likoud historique, défendant tout ce qui était judiciaire en Israël et l'indépendance de la cour, ont été éjectés du parti. Et Rubi Rivlin, le président de l'État d'Israël, qui est un vieux Likoud annexionniste, mais réclamant des droits de la démocratie en Palestine annexée s'il le faut, il est aujourd'hui détesté aussi bien par la majorité du Likoud que par la droite du gouvernement. C'est-à-dire le Likoud, effectivement, est en train de glisser vers des positions assez antidémocratiques. Et d'ailleurs, il y a des projets de loi actuellement pour réduire le pouvoir de la Cour suprême, qui agit comme cour constitutionnelle pour, le cas échéant, annuler des lois contraires aux droits de l'homme ou contraires à la bonne marche de l'État. Et il se rapproche en cela du mouvement sioniste, fondamentaliste, religieux. Cette alliance, aujourd'hui, se resserre de plus en plus. Et je ne crois pas que, point de vue purement politique, on aille vers une rupture. Au contraire, le parti de Bennett aujourd'hui entraîne Netanyahu et le Likoud avec lui.
Madame. Oui, j'aurais voulu savoir à propos de l'organisation, le Troisième Temple. Je ne sais pas si c'est une organisation ou une secte, mais parce que j'ai entendu dire qu'elle elle contacte les juifs du monde entier pour récolter des fonds pour la construction du temple et qu'elle est apparemment très active. Donc j'aimerais savoir un petit peu plus là-dessus, si c'est possible.
Alors il y a plusieurs organisations messianiques qui récoltent des fonds et qui œuvrent pour cela. Vous avez des écoles talmudiques, il y a deux écoles talmudiques qui sont occupées à former les Kohen, les prêtres qui feront le culte sur le temple. Vous avez une autre qui s'occupe à former les Lévis, ce sont les musiciens du temple avec les trompettes en argent qui font pou pou pou. Ce sont des écoles talmudiques. L'Institut du Temple, lui, à Jérusalem, s'occupe, fait des grosses récoltes. C'est tout simplement reproduire, et pas seulement à l'unité, mais avec le plus de grand nombre possible, tous les instruments du culte qui serviront. Et si vous regardez le film Au nom du Temple, il a été piraté, il est sur YouTube, vous pouvez le regarder. Le rabbin Glick dit, j'ai un coup de fil. On me dit, ça y est, c'est prêt, on peut faire la prière juive sur le temple. Ils ont tout pour le faire, sauf la vache.
Est-ce que vous pensez que ce mouvement extrémiste est amené à grandir par démographie, tout simplement, ou est-ce qu'il y a une vraie capacité de séduction de la société israélienne dans toute sa diversité? Et deuxième question, est-ce que vous travaillez sur un livre en ce moment?
Oui, sur un livre, mais qui n'a rien à voir avec... directement avec Israël, c'est plutôt quelque chose sur le judaïsme, peut-être le judaïsme français. Le mouvement messianique grandit et accueille également des personnes non religieuses. Au début, le premier jour de chaque mois du calendrier hébraïque, le mouvement messianique organise un défilé autour des portes de la vieille ville de Jérusalem, en priant pour réclamer le droit de la prière juive sur le mont du Temple. Et il y a de plus en plus de monde, on retrouve de tout. C'est la reconstruction du temple devient aussi, pour des non-religieux, une espèce de forme de fierté nationale. C'est à nous. À cela se mêle le conflit avec les musulmans. Mais attention, c'est le troisième lieu saint de l'islam. Et c'est là, s'il arrive quoi que ce soit à Al-Aqsa, au Dôme du Rocher, un attentat, une explosion, de nouveau des tirs, un massacre de fidèles, cela va placer le judaïsme face à l'islam. C'est là qu'on se trouve face à un véritable risque réel de guerre de religion.
J'aurais voulu savoir quelle était la position du mouvement messianique par rapport aux Arabes israéliens. Tu as évoqué la position par rapport aux Palestiniens, mais par rapport à la population arabe d'Israël. Deuxième petite question, tu as évoqué plusieurs leaders israéliens, de Moshe Dayan à Begin ou à Shamir. Quelle était la position de Sharon par rapport au mouvement messianique ?
Alors, je vais commencer par la fin. Sharon a utilisé Gush Emunim lorsque, arrivé au pouvoir avec Begin et après le traité de paix avec l'Égypte, ils ont lancé la construction de colonies sur une échelle beaucoup plus grande. Ils ont utilisé Gush Emunim pour procéder à la construction, à l'installation et à envoyer le mouvement, créer les colonies. Il y a eu la rupture entre Gush Emunim et Sharon lorsque Sharon a décidé le retrait des 7000 colons de Gaza. Là, on a eu une vraie rupture. Mais à ce moment-là, Sharon, qui n'était pas lui-même ni croyant, ni observant, ni religieux, il avait une vision sécuritaire du conflit. Ici, on peut évacuer, là, on ne peut pas évacuer. Et son idée était de retirer les populations juives de Gaza pour essayer de développer le plus l'implantation juive, là où il voulait la laisser, en Cisjordanie, mais avec une vision sécuritaire. Maintenant, la première partie de la question.
La première question. Le mouvement messianique par rapport aux Arabes israéliens.
Alors, les rabbins, alors ça dépend quel rabbin. Vous avez Israël Ariel, lui, j'ai des textes de lui qui sont publiés dans son institut du Temple. Lorsqu'on reconstruit le Temple, il faudra virer tous les non-juifs et pas seulement les Arabes, qu'ils soient israéliens, palestiniens ou autres, mais aussi les chrétiens et ceux qui veulent rester, ils devront faire un serment spécial d'allégeance au peuple juif et à l'État d'Israël. Ça, oui. Maintenant, vous avez des personnalités qui sont pour un État binational où on vivrait, qui serait plutôt sous le contrôle juif, mais où les Palestiniens resteraient et pourraient continuer de vivre tranquillement. Vous avez notamment, s'il y avait un rabbin dans une colonie de Tekoa, près de Bethléem, qui avait cette vision, il rencontrait des imams, il rencontrait des chers, et l'idée c'était, on va faire l'État binational et on leur donnera des droits. Ça existe, c'est-à-dire, vous avez des extrêmes racistes jusqu'à une vision presque messianique de « on s'aimera les uns les autres ». Ça va d'un bout à l'autre.
Dans ce contenu du messianisme, justement, c'est l'avènement de la paix sur Terre, mais donc par le glaive ou...
Il y a les deux.
Les deux,
ouais. Il y a des grandes discussions. D'abord, un principe. La création de l'État d'Israël, la conquête des lieux saints en 67, c'est la preuve qu'on est dans une période eschatologique. Maintenant, question. Est-ce qu'on précipite la venue du Messie ? Est-ce qu'on attend que lui, là-haut, va décider de le faire ? Et qu'est-ce qui se passe après ? Vous avez des rabbins qui vous expliquent les choses. Vous avez des rabbins qui interdisent aux Juifs de monter prier sur l'esplanade des mosquées. Parce que depuis 2006-2007, quand la seconde intifada a commencé à se calmer, la police israélienne a commencé à autoriser les visites de juifs religieux en kippa sur l'esplanade des mosquées, sous la condition qu'ils n'ont pas le droit de prier. Aujourd'hui, il y en a des milliers et des milliers qui viennent, des écoles talmudiques complètes. Et cela suscite pas mal d'agitation chez les musulmans. Et en parallèle, il y a une exigence de plus en plus grande de prier sur l'esplanade. Alors ce qu'ils font, ils sont debout, puis ils mormonnent une prière. Faut le voir. Il y en a quelques-uns qui, effectivement, soit se prosternent devant le dôme du rocher, soit tout à coup se mettent à prier ou sortent un livre de prière, et là ils sont expulsés, il y a un procès, perturbation de l'ordre public, monsieur n'a plus le droit de rentrer sur l'esplanade des mosquées. Ça dure quelque temps, ils font appel, mais encore une fois, juridiquement, rien n'empêche un juif d'aller prier. Et les juges, il suffit que le juge de paix à Jérusalem soit un petit peu religieux, il relaxe tout de suite les types qui sont arrêtés pour avoir crié une prière juive dans ce lieu saint musulman, pour s'être prosterné ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est une situation extrêmement tendue et qui peut très vite dégénérer. Voilà.
Tout ça est effrayant. Est-ce qu'il y a quelques raisons d'espérer ?
Je ne vous dirai pas, on va prier. Il y a la crise politique, l'impossibilité réelle de parvenir à un accord entre Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui, vous suivez l'actualité comme moi. 400 000 Israéliens habitants, les 600... Les 60% de la Cisjordanie qui sont virtuellement annexés, il n'y aura pas. Arafat, son rêve était de proclamer l'indépendance de la Palestine depuis Al-Aqsa et de dire aucun Palestinien ne deviendra israélien, n'exercera le droit au retour d'un réfugié, mais viendra construire la Palestine avec nous. Le droit au retour des Palestiniens... Aucune négociation, les Palestiniens n'ont réclamé le droit au retour de l'ensemble des réfugiés, seulement des réunifications de familles plus ou moins limitées, notamment pour les réfugiés palestiniens au Liban, où il y a un véritable problème humain. Et Arafat a toujours dit, et il me l'a dit devant ma caméra, Israël n'aura jamais de problème démographique avec moi. Mais l'idée d'Arafat, c'était, il était prêt à faire des concessions sur la Cisjordanie, mais Al-Aqsa. L'idée, c'était ça. Et pour moi, et je l'ai écrit et on l'a montré, le sommet de Camp David en juillet 2000 a échoué, non pas à cause d'exigences territoriales d'Arafat ou des autres, mais tout simplement sur l'impossibilité d'arriver à un accord sur Jérusalem et sur le monde du Temple. Pour les Palestiniens, le monde musulman, il n'est pas question de renoncer à un centimètre de ce lieu saint musulman, et le judaïsme ne va pas renoncer à son seul lieu saint. Vous savez, après l'échec de Camp David, Arafat est allé voir Chirac à Paris, Dr Chirac, comme il l'appelait, et Chirac sort le plan de l'esplanade des mosquées. Puis, alors écoutez, voilà ce que je propose. En haut, c'est à vous. En dessous, c'est aux Juifs. Mais Arafat a dit, je peux pas. C'est tout. On peut pas. En haut et en bas, c'est la même chose. Ah bon, et puis ils se sont fâchés. Un accord paraît... Il faut jamais dire jamais, hein, là-bas. Il y a les miracles, c'est arrivé dans le temps. Peut-être que ça peut recommencer. Mais je ne vois pas comment on peut aujourd'hui régler ça avec en plus l'atmosphère qui règne. Vous savez, pendant la cérémonie d'inauguration du transfert de l'ambassadeur des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, à peu près le matin même, le gouvernement israélien a décidé d'un budget de 2 milliards de shekels pour israéliser Jérusalem-Est, la Jérusalem palestinienne. C'est judaïser la Jérusalem palestinienne. Donc, il n'y aura pas. Désolé.
Vous décrivez beaucoup de sensibilité dans ce messianisme juif, mais comment se structure-t-il politiquement ? Je veux dire, est-ce qu'il est plutôt salafiste ou est-ce qu'il est plutôt frère musulman ? Je veux dire, comment est-ce qu'il pèse sur la vie politique israélienne ? Est-ce qu'il se structure en partie ou est-ce qu'il se contente d'influencer, de peser, de faire imposer des lois ?
Le parti, le foyer juif, est un partenaire du gouvernement israélien et vous avez des partisans de ce sionisme religieux au sein du comité central du Likoud, des ministres du Likoud qui sont totalement là-dedans. Vous savez, il y a la vice-ministre des Affaires étrangères qui est Likoud. Le ministre des Affaires étrangères, c'est encore Netanyahou, il a plusieurs casquettes. Elle réunit, lorsqu'elle arrive au ministère, pour expliquer aux diplomates israéliens, des messieurs très sympas, très simples, avec une cravate, un costard, et qui sont plutôt carrés, et qui viennent souvent plutôt du Parti travailliste, leur expliquer, alors écoutez, à partir de maintenant, on fait les choses différemment. Vous expliquez que la Judée-Samarie, c'est à nous parce que Dieu nous l'a donné. Alors vous expliquez ça à vos gouvernements où vous êtes en fonction dans les ambassades. Et je peux vous dire que les ambassadeurs se sont un peu grattés l'occiput. Ils disent comment on va faire ?
Après la guerre des six jours, on a entendu pendant quelques années l'expression internationalisation des lieux saints. Qu'est-ce que l'on peut imaginer encore derrière ? Est-ce que ça a encore un sens ou pas ?
Écoutez, à ce stade, dans toutes les négociations qui ont eu lieu entre Israéliens et Palestiniens, toute personne qui a lancé l'idée d'internationaliser Jérusalem ou les lieux saints, ça a été non. Les Palestiniens ne sont pas d'accord. C'est la seule chose qu'ils peuvent obtenir pour leur État, parce qu'il leur reste quand même pas beaucoup de territoire à Gaza, pas beaucoup de territoire en Cisjordanie, alors au moins Jérusalem-Est avec Al-Aqsa, donc c'est non. Et les Israéliens ont toujours refusé, toujours. Toujours. Il n'y aura pas d'internationalisation des lieux saints, à moins que ce soit imposé par la communauté internationale. Or, la communauté internationale n'impose rien. Mais alors, à maximum, quand il y a... Pardon ? Ça a été abandonné depuis 1972, je crois, à l'ONU. Oui, mais c'est... Vous savez, la communauté internationale, quand il y a 50 Palestiniens tués à la frontière, il y a quelques condamnations... Et même le monde arabe ne bouge pas le petit doigt. Alors la communauté internationale ne fera rien.
J'ai une dernière question à poser à Charles Anderlin. Je comprends assez bien ce qui se joue en Israël même. Cette espèce de fusion d'une droite nationaliste et d'un messianisme lesté sioniste. Maintenant, si je regarde du côté de la diaspora, ce n'est pas tout à fait la même chose pour elle. Dans la diaspora juive... Je pense qu'on se pose moins la question d'une telle fusion, premièrement. Deuxièmement, pour compliquer encore un peu plus les choses, il y a d'autres messianismes qui jouent que juifs, mais qui sont en faveur de ce qui se passe, mais qui ne sont pas non plus forcément... Voilà. Et donc, est-ce que tu peux, sans refaire une deuxième conférence, parce que c'est peut-être te demander beaucoup, mais nous éclairer un peu sur les jeux complexes, non pas en Israël, mais en dehors d'Israël, dans la diaspora juive où... en liaison avec d'autres messianismes, on pense en particulier à certains évangéliques, qui pèsent dans tout ça.
Alors effectivement, ce qui se passe en Israël est un problème majeur pour la diaspora juive, parce que d'abord la grande idée de Netanyahou et de ses amis nationalistes religieux, sionistes religieux, de faire d'Israël l'état-nation du peuple juif, il est question aussi de le faire au plan religieux. De donner au grand rabbinat en Israël la possibilité de statuer sur toutes les conversions faites à l'étranger. C'est-à-dire, effectivement, on aurait une sorte de pape ou de Vatican, des grands rabbins en Israël qui décideront pour qui est juif à l'étranger. Alors cela pose de gros problèmes d'abord pour la communauté juive américaine, qui est réformée, conservateur, Et lorsque, par exemple, ils viennent pour prier à Jérusalem, ils veulent prier comme ils le font aux États-Unis, c'est-à-dire femmes et hommes côte à côte. Mais ça, les orthodoxes du mur des Lamentations le refusent. Et à deux reprises, il y a eu un accord qui a été signé entre les grands mouvements réformés et conservateurs américains et le gouvernement Netanyahou pour laisser à ces juifs qui ne sont pas considérés comme juifs par les orthodoxes, par le grand rabbin qui tient le mur des Lamentations, et pour leur laisser un petit espace où ils pourraient prier à leur manière, prière juive, la réponse est non. À deux reprises, Netanyahou a signé un accord qu'il a ensuite annulé. La communauté juive américaine, de ce point de vue-là, est de plus en plus opposée à Netanyahou et à son gouvernement, d'autant plus qu'elle est plutôt du côté démocrate. Ça se retrouve notamment dans les universités américaines, où les jeunes juifs sont très souvent parmi les militants contre Israël et pour les Palestiniens, on voit ça. Ceux qui soutiennent Israël aux États-Unis, le gouvernement Netanyahou, c'est les vieilles organisations comme AIPAC ou la conférence des présidents. C'est la génération de juifs américains qui ont fait fortune, qui tiennent ces organisations, mais derrière pousse toute une jeunesse juive américaine qui voit l'occupation et la politique israélienne dans les territoires occupés comme une atteinte aux droits de l'homme et combattre cela. Donc ça, c'est fondamental. Donc un, le problème pour le judaïsme hors d'Israël que Netanyahou, son gouvernement et les rabbins voudraient bien pouvoir contrôler, faire d'Israël l'État-nation du peuple juif, c'est le Vatican du peuple juif, également au plan religieux. Et puis cette rupture qui arrive entre une partie de la diaspora, surtout aux États-Unis, en France, je ne vois pas du tout un phénomène similaire au sein de la communauté. On a essayé à une ou deux reprises de créer une association d'aide aux ONG de gauche en Israël, qui sont qualifiés d'antipatriotiques par la droite et par le gouvernement israélien lui-même. On n'a jamais réussi à mettre sur pied un mouvement pour essayer de les aider.
Et sur les autres
messianistes,
un mot
Oui, il y avait à la petite cérémonie de transfert de l'ambassadeur, il y avait deux pasteurs évangélistes, invité par l'ambassadeur des États-Unis, M. Friedman. Il y avait Jeffrey, qui est le pasteur proche de Donald Trump. Lui, il pense que les Juifs finiront en enfer, et il l'a dit, il le répète. Les musulmans, l'islam n'est pas une religion, et de toute manière, les catholiques aussi devraient aller en enfer. C'est le genre de personnage évangéliste que l'on retrouve aujourd'hui pour l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Il y avait aussi le pasteur Hagi, qui, alors lui, il est totalement dans le messianisme évangélique, à savoir l'État d'Israël, c'est très bien, la colonisation, c'est très bien. Ils vont susciter la guerre, Gog et Magog, Armageddon, et puis Jésus descendra du ciel. Et les Juifs qui iront avec lui seront sauvés, les autres iront en enfer. Il y a toutes sortes de théories, et puis on les voit, on voit ces évangélistes se promener régulièrement, expliquer. Et je peux vous dire qu'avec cette cérémonie à l'ambassade l'autre jour, ils étaient en transe. En transe, l'histoire se fait.